Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cet épisode vous est présenté avec la participation de Pritel. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en septembre 2012 et c'est l'épisode numéro 96. Tous et à toutes pour cet épisode numéro 96 du Rendez-vous Tech, un épisode un petit peu particulier puisque je suis en vadrouille et que je ne peux donc pas enregistrer avec mes camarades habituels. J'ai donc décidé d'enregistrer un petit podcast en solo, comme ça arrive de temps en temps, une ou deux fois par an. Je fais ça pour ne pas vous laisser sans épisode tout de même, je pense à vous. Et puis, ça me manquerait bien sûr d'enregistrer mon épisode habituel toutes les deux semaines. Donc, je fais un épisode en solo, sans doute un petit peu plus court, pour vous parler des quelques dernières informations de ces deux dernières semaines. On va parler d'Apple, bien sûr, mais pas trop longtemps non plus. On va parler de Mark Zuckerberg et du HTML5, et on va parler de Windows 8 et d'autres choses de ce genre avec des petites infos en plus. Donc, je vais me lancer tout de suite en vous parlant un petit peu d'Apple et en précisant que je ne vais pas passer trop de temps sur l'iPhone. On en a beaucoup parlé dans Upload, donc si jamais vous êtes intéressé par l'analyse complète de l'iPhone 5 et de tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les éventuelles controverses et les débats sur la qualité de l'appareil, etc., on a fait vraiment une analyse, je pense, assez bonne dans Upload 130 avec Jérôme Kainborg et Corben. Donc c'est un épisode qui s'appelle « Quand t'es pauvre, t'es sage » et je vous engage à aller l'écouter parce qu'il est vraiment, vraiment intéressant à mon sens. Je vais juste faire je vais rappeler deux petites choses que j'ai dit dans cet épisode rapidement, une fois que j'aurai fait le résumé rapide aussi de l'iPhone 5 lui-même. Je vais pas revenir sur les qualités et les capacités techniques de l'appareil. Je pense que tout le monde en a entendu parler très largement. Je vais juste parler de deux petites choses. D'une part, le succès assez incroyable de l'iPhone 5, c'est-à-dire qu'il a plus de succès, il se vend plus vite que l'iPhone 4S, ce qui en a surpris certains. Le fait qu'il y a quand même une sorte de réveil de gueule de bois, en France en tout cas, après l'arrivée de Free, parce que l'arrivée de Free Mobile qui fait qu'on n'a plus à payer des prix exorbitants pour nos abonnements mensuels, fait aussi qu'on n'a plus le téléphone sponsorisé ou le téléphone qui est payé par les abonnements eux-mêmes. Et donc, on se rend compte à quel point un appareil comme celui-là est cher. En l'occurrence, l'iPhone 5, première version avec 16 gigas, coûte 679 €, si je ne m'abuse. Bien sûr, c'était le cas déjà avec les appareils précédents, mais comme on payait 200 € et puis 70 € par mois, on s'en rendait moins compte. Là, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte à quel point ça coûtait cher et que c'était pas forcément du tout abordable. On se demande presque si ça va réduire un petit peu les ventes en France. Moi, je sais que je vais sauter l'iPhone 5, j'irai directement au suivant. A priori, à moins que d'autres appareils ne me convainquent entre-temps dans l'année de répit que je m'accorde. Mais bon, voilà, donc c'était quelque chose que beaucoup de gens ont constaté. Une autre chose à mentionner tout de même, c'est le fait qu'il y ait eu une grosse... bon, je vais pas dire scandale, parce que c'est quand même un petit peu fort, mais une grosse controverse sur les cartes d'Apple à iOS 6. Comme vous le savez, avec iOS 6, Apple a sorti Google Maps de son de ses appareils iPhone et iPad, et ils ont ils se mettent à utiliser leur propre carte, leur propre système de cartes, et on se rend compte aussi que c'est pas si facile de faire des cartes. En l'occurrence, elles sont souvent, bon, généralement ça va, mais il y a souvent des endroits où c'est pour le moins approximatif. Donc ça a fait le tour du web et c'est souvent assez comique aussi. Il y a des mappings de sur certaines zones qui ressemblent à des sortes de chocolat fondu d'immeubles. C'est assez étrange. Il y a des endroits où ça vous repère pas bien et où ça va vous mettre en plein milieu d'un champ alors que vous êtes sur une route ou ce genre de choses. Bon. C'est clairement un début un petit peu difficile pour les cartes d'Apple. Visiblement, ils recrutent à tour de bras des anciens de Google Maps et on peut imaginer que d'ici quelques mois ou en tout cas l'année prochaine, les choses seront dans leur ensemble réglées. Mais pour le moment, certains attendent avec impatience l'arrivée de Google Maps en app indépendante. Bon, voilà, c'était pour les quelques éléments sur l'iPhone 5. Et les choses que je voulais rappeler par rapport à ce que j'ai dit dans Upload, je pense que ça résume un petit peu ma pensée personnelle sur l'iPhone 5 et le débat qu'il y a eu dessus. Beaucoup de gens ont dit que l'iPhone 5 était décevant parce qu'il n'avait rien de vraiment révolutionnaire, entre guillemets. Et notamment, beaucoup de gens ont parlé de la recharge sans fil et du NFC. Sans partir sur les questions de recharge sans fil et de NFC, de l'utilité de ces technologies, dont je ne suis pas moi-même convaincu, non pas parce qu'elles sont pas utiles, mais parce que il faudrait peut-être qu'elles soient un petit peu plus répandues. Et que Apple souvent ne se lance pas dans certains domaines et dans certaines fonctionnalités avant qu'ils soient vraiment répandus, et qu'ils pensent avant tout à l'utilisation plutôt que la technologie elle-même. Donc au-delà de cette question-là, il y a une chose très importante à voir, c'est que je pense qu'on a tous eu une sorte d'illusion d'innovation révolutionnaire chez Apple. Alors que c'est vraiment pas le cas. C'est-à-dire que beaucoup de gens s'attendent chaque année à ce qu'Apple sorte quelque chose d'invraisemblable et d'incroyable qui décoiffe le monde de l'informatique dans son ensemble. Et alors, j'entends déjà des gens qui disent « Ah oui, c'est vrai, voilà, je le dis depuis longtemps, Apple n'invente rien ». C'est pas tout à fait ce que je dis. Ce que je dis, c'est que avec la sortie de l'iPhone 5, avec la sortie de l'iPhone, ils ont fait une révolution dans le monde de l'informatique et du téléphone en même temps. Et là, c'est vraiment un vent de changement qui a soufflé sur ces deux industries. Et à peine 3 ans plus tard, avec la sortie de l'iPad, qu'on sentait déjà venir, en tout cas on avait les rumeurs d'une tablette depuis longtemps, ils ont encore une fois révolutionné l'industrie de l'informatique. Il faut évidemment savoir que depuis la sortie de l'iPad, toute l'industrie de l'informatique, tous les grands acteurs de l'informatique se tournent vers la mobilité d'une part et vers les tablettes d'autre part. Donc ça a vraiment été quelque chose qui a changé tout le paysage de l'industrie. Même si à l'origine, certains, dont vous vous souvenez ce qu'on disait, on n'était pas aussi convaincus que ça, nous, les technophiles, avant de l'avoir en main, ou peut-être avant d'avoir ingéré l'information. Donc, on a eu, à 3 ans d'intervalle, deux produits qui ont vraiment changé la manière dont on envisage l'informatique. On le dit souvent dans le rendez-vous tech. Beaucoup plus d'informations dont on parle qui sont légitimement de l'informatique et de l'IT sont tournés vers la mobilité depuis ces deux événements. Et donc, comme on a eu ces deux produits vraiment révolutionnaires à 3 ans d'intervalle, on a eu l'impression que Apple allait sortir à chaque annonce quelque chose d'aussi énorme. Et en fait, c'est vraiment pas le cas. Si on regarde l'iPhone depuis le premier opus, on a eu le 3G qui a juste ajouté la 3G, le 3GS qui était juste un petit peu plus rapide, le 4, bon, il a eu l'écran Retina, ce qui était pas mal, mais rien non plus de vraiment fantastique par rapport au 3GS, au-delà de l'écran Retina, le 4S qui a Siri, qui lui non plus ne change pas la face du monde, et le 5 qui, encore une fois, ne change pas la face du monde. Mais ce que je veux dire, c'est que ces mises à jour ont toujours été incrémentales, c'est des évolutions. Et donc, comme on a eu l'iPhone puis l'iPad à quelques années d'intervalle, on a eu cette impression que Apple va toujours renverser l'ordre établi. Et en fait, évidemment, c'est pas le cas. Dans ses produits, Apple est, à mon sens en tout cas, beaucoup plus conservateur, beaucoup plus prudent. Et donc, il faut pas s'attendre à ce qu'à chaque fois, les choses changent complètement. Si on veut des choses beaucoup plus, je vais pas dire innovantes, parce que c'est parfois un peu de la technologie pour le principe de la technologie, mais si on veut des nouveautés qui excitent les geeks vraiment technophiles, je pense qu'il faut plus se tourner vers Android, d'une part, avec des constructeurs qui doivent se différencier chacun l'un de l'autre avec des technologies différentes, ou peut-être même Windows 8 qui a des choses comme le NFC ou la recharge sans fil chez Nokia, comme on peut l'avoir chez Android. Mais à mon sens, c'est pas chez Apple qu'il faut aller chercher pour les choses qui sont vraiment à la pointe de la technologie nouvelle. Chez Apple, ils sont plutôt à raffiner les usages avec des choses qui sont utiles tout de suite et qui n'ont pas besoin d'installer une base avant d'être utile. Bon, évidemment, quand je dis ça, l'année prochaine ou dans 6 mois, Apple va peut-être annoncer quelque chose d'encore une fois impressionnant, mais peut-être qu'il faudra attendre l'Apple TV ou l'iTV pour avoir quelque chose de vraiment différent, mais vu comment les négociations avec les fournisseurs de contenu sont en train d'aller, ça risque de pas être pour tout de suite. Bon, on referme cette page. Ah non, pardon, il y a une autre chose que je voulais faire, une petite image métaphore, donc je suis très fier, pour illustrer les combats entre Apple et Android et autres téléphones du genre. Une métaphore dont je parlais dans Upload, en l'appelant, je crois, le principe ou le précepte de la glace à la framboise, pour dire que finalement, aujourd'hui, tous ces systèmes sont arrivés à maturité. Et c'est un petit peu comme, à mon sens, une question de goût, un petit peu comme en cuisine ou dans la nourriture. On peut avoir une préférence pour certains plats si on aime les currys ou les steaks ou le poulet. Et personne va aller vous dire « Ah, mais t'es un abruti d'aimer le poulet, le steak c'est vraiment mieux, c'est vraiment meilleur. » Et en fait, pour moi, aujourd'hui, ces systèmes-là, c'est un petit peu la même chose. Certains vont préférer iOS, certains vont préférer Android, certains vont préférer Windows 8. Et je comprends pas pourquoi d'autres se trouvent obligés de dire ton Windows 8 c'est de la daube, ou ton iOS c'est vraiment merdique, ou ton Android c'est insupportable. De la même manière que je comprendrais pas que quelqu'un vous dise si tu aimes la glace à la framboise, t'es un abruti. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment une question de goût et de préférence. Il n'y a pas de système qui est foncièrement, objectivement meilleur que l'autre. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Et c'est une question de préférence pour moi. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur le sujet. Et cette fois-ci, on referme vraiment la page iPhone. Et on se précipite de ce pas dans la page HTML5 et Mark Zuckerberg qui nous parle de l'application Facebook. Vous l'aurez peut-être entendu, Zuckerberg, Mark, le président bien-aimé de Facebook, a annoncé il y a une dizaine de jours qu'il se mettait à fond sur les applications natives sur mobile et que l'orientation vers le HTML5, donc le langage du web, pour développer leurs applications avait été une énorme erreur et sans doute la plus grosse erreur qu'ils aient fait chez Facebook. Alors, Il y a plusieurs moyens d'interpréter la chose. D'une part, on a tous constaté que l'application native, c'est-à-dire codée en C pour ceux qui connaissent, était beaucoup plus rapide et beaucoup plus agréable à utiliser sur les différents appareils sur lesquels elle était apparue en comparaison avec les applications précédentes qui étaient codées en HTML5, donc technologie du web à l'origine. Et disons que on peut se demander ce que ça veut dire pour le HTML5 dans son ensemble. Et certains pourraient peut-être penser que c'est une condamnation du HTML5. C'est clairement une orientation hyper forte qui dit le HTML5 n'est pas encore prêt pour les applications mobiles. Il y a certains d'entre nous, et moi aussi, qui se sont dit, quand les mobiles sont arrivés, bon, c'est bon, le HTML5 est là, il a des possibilités énormes, presque aussi importantes que celles d'une application native, et on peut en faire presque ce qu'on veut. Et on se rend compte aujourd'hui que finalement, on n'y est pas encore. Alors, pour des choses simples comme le remplacer les vidéos flash, par exemple, ça marche très très bien. Pour ça, il n'y a pas de souci, le HTML5 fait parfaitement l'affaire et on l'a constaté. On a constaté aussi que le flash n'était pas, finalement, malgré les nombreux débats houleux qu'on a eus pendant des années, le flash n'était pas prêt pour la mobilité. Les appareils mobiles ne font pas bien tourner les applications flash. Donc, le HTML5 devait être le remplacement de tout ça. Et on se rend compte que ce n'est pas suffisamment efficace, suffisamment rapide dans ces contextes pour remplacer tout ça. Alors, bien sûr, on voit bien que certains développeurs ont fait des choses incroyables avec du HTML5. Ils ont fait des jeux vraiment complets qui sont contrôlés au clavier, etc. Mais ça reste au stade de démo. Ça serait possible, bien sûr, de faire des choses comme ça, mais sur les appareils mobiles, c'est pas vraiment pratique, c'est pas vraiment fonctionnel encore aujourd'hui. Ça arrivera peut-être un jour, de la même manière qu'on a quelque chose comme Gmail ou les Google Docs dans nos appareils, enfin sur nos laptops, sur nos navigateurs qui sont entièrement en HTML5 et qui fonctionnent très bien. Mais peut-être que ça arrivera, mais on n'y est pas encore. Et c'est ce qu'on constate, et c'est ce qu'a dit clairement Zuckerberg. Quand on veut s'orienter vers la mobilité, ce que fait Facebook, ils disent c'est nous sommes désormais une société mobile plus qu'autre chose, une société qui travaille vers la mobilité plus qu'autre chose. Il faut faire des applications natives, et on ne peut pas se contenter, entre guillemets, du HTML5 si on veut être compétitif. Donc ça, c'est quelque chose, effectivement, de très important. Alors, pour bien être clair, ça ne veut pas du tout dire que le HTML5 est enterré. Au contraire, moi, je pense quand même que c'est un standard qui a énormément d'avenir, mais peut-être qu'il faut encore lui laisser un petit peu le temps de cuire, et surtout, il faut laisser du temps aux développeurs d'applications, plutôt aux constructeurs et au matériel d'évoluer. Une fois qu'on aura peut-être de la 4G partout et que nos appareils mobiles auront la puissance d'ordinateurs qu'on avait sur nos bureaux il y a 5 ans, là, oui, ça sera beaucoup plus utilisable. Entre parenthèses, petite anecdote, il semblerait que l'iPhone 4S, qui est celui que je connais, a autant de puissance qu'un Power Mac d'il y a 10 ans. Donc on a dans ce petit appareil la puissance d'un ordinateur de bureau d'il y a 10 ans. Donc effectivement, disons dans 2-3 ans, quand la 4G sera partout et qu'on aura le HTML 5.1, j'imagine que les applications HTML 5 auront beaucoup plus d'importance. Peut-être que les applications natives resteront quand même un petit pas en avant, mais par contre, le HTML5 sera suffisant pour des applications de mail ou Facebook ou ce genre de choses, j'imagine. Donc bon, on verra, mais là encore, je disais, c'est un réveil de gueule de bois tout à l'heure avec les histoires d'Apple. Peut-être que là, il y a aussi un petit peu de ça pour le HTML5. On a peut-être été un petit peu trop enthousiaste pour tout ça. Et je mets immédiatement, encore une fois, l'avertissement. Ceux qui crient victoire avec l'histoire de Flash, c'est totalement différent. Flash a clairement été poussé en dehors de la mobilité parce que on a constaté que ça ne fonctionnait pas. Et le HTML5 suffit pour les vidéos, qui est l'utilisation principale de Flash, ou qu'il était en tout cas. On parle vraiment d'une question d'applications natives qui font des choses complexes sur un appareil mobile. Donc voilà, c'est tout pour la question du HTML5 et de Facebook. Et on enchaîne avec les questions de Windows et d'Intel, donc Wintel et Windows 8. J'ai quelques impressions à vous donner. Et comme vous l'entendrez sans doute avec le bruit qu'il y a un petit peu autour de moi, j'ai changé de décor. J'ai quitté le confort douillet de ma chambre d'hôtel pour vous parler entre deux avions. De l'aéroport, à vrai dire, je vais monter dans l'avion d'ici une petite heure, donc j'ai un petit moment pour faire la dernière partie de l'épisode. Si vous entendez des annonces en russe, c'est normal, c'est le gouvernement qui a enfin réussi à me retrouver. Non, je plaisante, j'ai rien dit de mal ni sur Poutine, ni sur aucune autre figure du gouvernement russe. Bon, donc, de quoi parlait-on avant que je n'interrompe l'enregistrement? Je crois que j'allais vous parler de Windows 8. Et là encore, donc il y a Windows 8 et un petit peu l'univers Wintel. Mais pour Windows 8 spécifiquement, j'ai parlé assez longuement de mes impressions dans le dernier upload. ou en tout cas celui de la semaine dernière, c'était le 130 si je ne m'abuse, j'avais donné le nom un petit peu plus tôt dans l'émission. Et j'ai été vraiment, vraiment très impressionné. Vous savez, bien sûr, que j'ai vraiment de très bonnes impressions. J'avais de très bonnes impressions sur Windows 8 avant de l'avoir vraiment testé. Mais maintenant, j'ai eu l'occasion de le tester. Je l'ai installé sur mon MacBook, ce qui a fait hurler certains sur Twitter. C'était marrant de voir certains crier à l'hérésie d'avoir un produit Microsoft sur le MacBook. Mais c'est vrai que le MacBook est vraiment une belle machine, et avec Windows, il fonctionne très très bien. Et justement, donc, Windows 8, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que, comme on pouvait l'espérer, j'ose même pas dire comme on pouvait l'imaginer, mais comme on pouvait l'espérer, tout fonctionne. Tous les éléments qu'ils nous ont promis fonctionnent. Ce que j'entends par là, c'est que ils ont promis d'avoir une interface qui fonctionne au doigt, à la souris, au trackpad, et qui soit agréable à utiliser dans tous ces cas. Et donc, avec le MacBook, qui est relativement petit, c'est un 13 pouces, donc c'est pas un écran énorme, mais ça fonctionne quand même très bien. Je peux très facilement utiliser l'interface moderne, qu'il ne faut plus appeler Metro. Et surtout, ce que je craignais un petit peu, l'interface classique, l'interface de Windows 7, fonctionne parfaitement bien. Ce que j'entends par là, c'est que tous les programmes, bien sûr, sont possibles à installer, mais aussi, ils sont très facilement accessibles. Il n'y a pas de problème de différence de fonctionnement avec l'interface qui va interférer avec le fonctionnement des applications, ni quoi que ce soit de ce genre. J'ai installé plein de jeux, j'ai installé des programmes, et tout fonctionne très bien. Et la disparition du menu démarrer n'est pas du tout un souci, puisque les programmes sont gérables dans l'interface moderne, qui remplace en quelque sorte le menu démarrer. Et j'irai même jusqu'à dire que l'utilisation, alors je l'ai utilisé pendant une semaine, 10 jours maintenant, mais l'utilisation de Windows 8 est même plus agréable, même pour ce qui est de l'interface desktop Windows 7. Donc elle est plus agréable sous Windows 8 que sous Windows 7. Les coins qu'on utilise pour faire certaines actions sont très bien pensés. L'interface moderne Metro, vous le savez, hein, on l'aime à peu près tous chez NoWatch, donc ça surprendra personne, mais elle est vraiment agréable à utiliser. Donc bref, premières impressions sur Windows 8, vraiment, vraiment positive. Je suis très, très, très enthousiaste sur ce système. Ça m'a même donné un petit peu plus envie d'utiliser, en tout cas d'essayer, Windows Phone 8. Comme je vous le disais, moi, j'y suis pas encore. Je suis très content avec mon iPhone. Mais peut-être que quand Windows Phone 8 aura eu le temps de se développer un petit peu avec plein d'applications et que les gens seront habitués à l'interface moderne avec Windows 8, qu'ils se déporteront sur Windows Phone 8, et que l'écosystème sera vraiment sain et vraiment en place, j'aimerais bien essayer, en tout cas, Windows Phone 8. Si quelqu'un me donnait un téléphone Windows Phone 8, je serais prêt à l'utiliser pendant quelques temps pour voir ce que ça donne. Donc, on va peut-être essayer de passer un coup de fil à Nokia ou quelque chose comme ça. Maintenant, pardon. Je voulais donc vous parler d'autre chose dans cet univers Windows, et en particulier d'une question un petit peu moins rose, qui est celle du tarif des tablettes à venir. Vous le savez, lors de l'annonce de la Surface, qui a vraiment été une annonce réussie, la chose qui manquait, c'était l'annonce du prix. Et bien sûr la date de lancement, même si la date de lancement, on pouvait la déduire, en tout cas c'est fin octobre pour la tablette RT, donc tablette interface moderne uniquement, et un petit peu plus tard pour la tablette Pro. Et donc cette question du prix est quand même très importante, parce qu'aujourd'hui il y a des tablettes Android ou Kindle Fire à des tarifs battant toute concurrence. Il y a l'iPad 2 qui est en vente à 400 € à peu près, qui est évidemment la référence dans le domaine. Ne m'envoyez pas de mail, hein, fan d'Android, je suis désolé, c'est la machine qui se vend le plus dans ce domaine, et c'est celle qui est le plus recommandée. Donc bref, l'iPad 2 est quand même assez bon marché pour ce type de produit, 400 € à peu près. On s'attend à ce qu'Apple annonce un iPad mini qui sera peut-être moins cher. Bref, la barre du tarif pour les tablettes est en deçà des 500 €, largement. Et donc, Steve Ballmer, le président de Microsoft, a expliqué que les tablettes Surface seraient à des prix comparables à l'iPad. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement de quoi il parle. Si on parle des 400 euros, ça sera très bien, parce que les tablettes sont vraiment intéressantes. 400 euros pour la première, peut-être qu'on montera un petit peu plus haut pour les autres. Mais il y a une sorte de petit grain de sable dans cette discussion, c'est que beaucoup de constructeurs ont annoncé leurs propres tablettes, et généralement, c'est quand même largement au-dessus. C'est-à-dire que les tablettes commencent à peu près à 600 $ pour des tablettes interface moderne, et ça monte à 1300-1400 $ quand on a des tablettes avec, attention, l'interface Pro. Donc, c'est des vraies tablettes qui ont l'interface Windows complète. Donc, c'est cette catégorie de produits dont on n'est pas absolument certain. En tout cas, moi, je suis pas certain qu'elle réussisse à trouver sa place entre les ultrabooks super fins et les tablettes qui sont pour le coup ultra portables pour un ordinateur entre guillemets. Bref, entre 600 et 1200 €, ça fait quand même assez cher. C'est surtout le prix d'appel qui, à mon sens, est difficile à atteindre. J'espère que Microsoft, avec sa Surface, réussira à l'atteindre. Évidemment, ils sont un petit peu moins, ils ont un petit peu moins de frais, puisque Windows lui-même ne leur coûte rien et que les autres constructeurs, ils doivent payer Windows. Mais bon, on verra d'ici, j'imagine, un mois, l'annonce. Enfin, dans un mois, à vrai dire, elle sera en train de sortir, la tablette Surface. Donc, on aura des nouvelles sur le prix bientôt. Je pense qu'ils sont encore en train d'y réfléchir, parce que pour ne rien avoir annoncé aussi proche de la date de sortie, c'est un petit peu étrange. Une autre chose, toujours dans l'univers Microsoft, c'est le prix de Office 2013, qui est assez intéressant. Alors, le prix d'une licence est de à peu près 130 $, donc ça se traduira sans doute en euros équivalents, 130 €, j'imagine. Et donc ça, c'est un prix assez classique, hein. On n'a pas de vraiment de surprise à ce niveau-là. Par contre, là où il y a une offre qui est assez intéressante, c'est l'abonnement à Office de 99 $ par an. Alors vous allez me dire, 99 $ par an, en un an, j'ai presque payé le prix de la licence. Oui, effectivement, mais il y a deux choses qui sont très intéressantes. C'est que pour cet abonnement, vous pouvez installer Office sur 5 postes. Donc, pour une famille ou même pour un couple qui a beaucoup d'ordinateurs, ou même pour un super geek qui a plein d'ordinateurs, bon, ça peut être intéressant. En tout cas, c'est très intéressant pour une famille ou pour une petite entreprise, ce genre de choses. Et aussi, évidemment, quand vous payez 99 $ par an, vous avez les dernières mises à jour qui sont automatiquement disponibles. Donc, si il passe à Office 2014, etc., ça sera disponible tout de suite, toujours pour vos 5 postes. Donc, ça va pas convenir à tout le monde, c'est un choix, mais c'est un modèle intéressant qui montre à quel point Microsoft, et ils l'ont dit hein, clairement, veulent se diriger autant vers le logiciel que vers le service. Et c'est un grand pas dans cette direction. Personnellement, je suis pas sûr que je prendrais une licence à 99 $, simplement parce que j'ai pas assez d'ordinateurs à équiper pour ça, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. On se dirige, je vous disais que je voulais parler de Wintel, donc ça veut dire qu'il y a Windows et Intel. Vous remarquerez que je le prononce bien quand je disais Intel, avec mes manies de corriger la prononciation des gens toutes les deux minutes. Il y a des auditeurs qui m'ont envoyé des mails pour me dire « Mais non, on ne dit pas Intel, on dit Intel ». Donc voilà, là je l'ai bien dit. Donc du côté de Intel, il y a eu des annonces de processeurs. D'une part, Clover Trail, qui est un processeur Atom, donc à faible consommation d'énergie, qui devrait sortir dans les semaines à venir et qui serait disponible pour les premières tablettes Windows 8, qui améliorera leur autonomie. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est le processeur Haswell, qui est le successeur de Ivy Bridge, pour les connaisseurs, qui devrait sortir au milieu de l'année prochaine. Et en gros, ce qu'ils nous ont dit, c'est qu'il sera très très bien. Donc on peut un petit peu les croire sur parole, mais c'est d'après les premières informations, il serait effectivement excellent pour les tablettes et les ultrabooks, surtout parce que, bien sûr, l'autonomie sera améliorée, comme toujours, mais surtout, il y aura une capacité graphique qui sera beaucoup plus importante qu'elle ne l'était dans les processeurs actuels. On aura des HD graphics, ce qu'ils appellent HD graphics, qui seront vraiment très intéressants. Donc on pourra imaginer, là je pense surtout des tablettes en version pro, c'est-à-dire des tablettes Windows qui font à la fois l'interface classique et l'interface moderne, que vous pouvez traiter exactement comme un ordinateur normal. Et ça pourrait vraiment les amener à un niveau très intéressant. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut pas en prendre encore aujourd'hui ? Moi, je dirais que pour les tablettes modernes, on est bon. Pour les tablettes pro, donc pour les tablettes RT, on est bon. Pour les tablettes pro, je sais pas, il faudra voir les tests, mais peut-être qu'il faudrait attendre un tout petit peu. Et puis ces processeurs pourront sans doute être utilisés dans d'autres appareils. On sait que Intel fournit a pour ambition de fournir des processeurs pour les téléphones du monde entier, puisque le monde entier se dirige vers la mobilité, c'est pas surprenant. On a vu quelques téléphones moyens de gamme arriver avec des processeurs Intel, mais évidemment ils vont pas s'arrêter là. Peut-être que pour les téléphones et les tablettes, c'est des choses qui pourront les aider. Voilà pour ce petit tour de l'information, et maintenant on va passer à la fin. La fin de l'épisode, donc. Vous aurez remarqué que j'interromps l'enregistrement ici et là. Entre parenthèses, j'enregistre sur mon iPad. Je vais essayer de faire un petit bout de montage sur l'iPad pour voir ce que ça donne. J'ai trouvé des applications qui peuvent faire ça. Le problème, c'est que ces applications sont plutôt dédiées à du montage d'épisodes courts, en tout cas de messages audio courts, qui sont plutôt pour des chansons et ce genre de choses. Donc bon, on verra ce que ça donne pour un podcast d'une trentaine de minutes. Avant de me retirer, je voudrais vous parler de notre sponsor. Comme vous l'avez entendu au début de l'émission, notre sponsor, c'est Pritel. Et vous en avez peut-être déjà entendu parler sur NoWatch, puisqu'ils sponsorisent plusieurs émissions chez nous. Et Pritel, c'est un fournisseur de services téléphoniques mobiles qui est un MVNO sur... le réseau de SFR, donc réseau tout à fait fiable, et ils ont une philosophie qui est assez intéressante et qui est très différente de la philosophie des grosses sociétés qu'on connaît habituellement dans ce secteur. D'ailleurs, entre parenthèses, si vous voulez voir un petit peu à quoi ressemble la tête de Pritel, le président de Pritel, vous pouvez aller trouver une vidéo sur le site nowatch.net qui est une interview que Jérôme a fait du président de Pritel, qui est disponible sur la section partenaires. Et je vous dis pas simplement ça pour une question de sponsoring. Comme on le dit dans Upload, c'est quelqu'un qui a l'air d'être vraiment sincère et intéressant. Et c'est pas du tout ce qu'on imagine d'une société de téléphonie mobile. Donc, il parle sans langue de bois du monde de la téléphonie mobile. Il explique certaines choses dont on ne se rend pas forcément compte. Et surtout, pour le dire simplement, ça a l'air d'être un gars assez sympathique et un petit peu hors norme. Donc, je vous encourage à aller le voir. Mais bon. Au-delà de ça, Pritel, c'est une société qui a débuté dans ce monde de la téléphonie mobile avec une philosophie différente. Ils ont un forfait qui s'appelle le Modulo, qui est un forfait qui vous permet vraiment de moduler votre utilisation, non pas d'un mois sur l'autre en basculant de forfait comme ça peut exister ailleurs, mais vraiment en payant ce que vous avez dépensé. Si vous êtes un jour, pendant un mois, loin de tout en vacances et que vous n'utilisez quasiment pas votre téléphone et que vous n'utilisez pas de data, vous n'allez quasiment rien payer. Vous avez un gros rush au niveau du boulot le mois suivant et que vous l'utilisez beaucoup, vous paierez ce que vous avez utilisé uniquement sur ce mois-là. Vous n'aurez pas à utiliser, à prendre un forfait qui va vous coûter très cher tous les mois, juste pour un mois où vous en avez vraiment besoin. Donc ça, c'est le forfait Modulo qui est leur philosophie depuis un moment. Et ils ont aussi vu arriver, comme tout le monde, la question de l'utilisation de la data. Et ils sont en train d'essayer de proposer un nouveau forfait, d'étudier un nouveau forfait qui serait équivalent un petit peu au modulo, mais pour la data. Et pour ça, ils ont besoin d'informations. Ils ont besoin de savoir comment vous utilisez vos téléphones portables. Donc, ils ont créé un sondage, même pas un sondage, une sorte d'étude, qui est très rapide à faire et qui est accessible depuis le site nowatch.net. Donc, on aimerait vous demander d'aller jeter un petit coup d'œil à cette page. Ça prend vraiment pas longtemps du tout à remplir. Vous avez la bannière sur le site nowatch.net. Vous pouvez cliquer là-dessus et ça vous emmènera sur le site où on vous posera les petites questions. Il y en a enfin vraiment pour une minute à tout casser. Et en plus, comme vous le savez, ça nous aide bien puisque ça montre à Pritel que vous êtes allé les voir grâce à nous. Donc voilà, on remercie Pritel de leur aide et de leur sponsoring. Et on vous remercie, vous, d'aller jeter un coup d'œil chez eux en passant par ce lien sur la page nowatch.net. Et donc enfin, la fin de l'émission. Vous savez évidemment de quoi je vais parler. Je vais parler des autres émissions qui sont disponibles sur nowatch.net. Il y en a plein. Elles sont presque toutes géniales. Les autres sont super géniales. Je vous ai bien eu, hein. Il y a plein d'émissions sympas. Il y a Will & Co qui a fait son retour avec la vidéo en plus de l'audio. C'est la rentrée. Il y a Season 1 qui est revenu. Il y a Saturne qui va pas tarder, etc., etc. Ça, c'est pour les podcasts plutôt audio. Jérôme a fait un long test très détaillé de son iPhone 5 qu'il vient de recevoir, qui est disponible là aussi sur le site, uniquement en vidéo, et c'est pas dans un podcast, donc il faut aller sur nowatch.net pour le voir. Et il y a plein de podcasts que vous aimerez, nous en sommes certains, donc allez jeter un petit coup d'œil sur nowatch.net. Vous pouvez aussi aller sur nowatch.net pour accéder au fan shop. Comme vous le savez, ça aussi, ça nous file un bon coup de main. Donc il y a plein de goodies super sympas, des t-shirts, vous connaissez la chanson, donc je vais pas vous la refaire. C'est sur nowatch.net/fanshop. Et enfin, si vous avez encore après tout ça 5 minutes à perdre, vous pouvez aller sur iTunes pour nous laisser une petite note de 1 à 5 étoiles. Donc ça, on donne pas des indications de vote. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Et bien sûr un commentaire, puisque, comme on le dit à chaque fois, ça nous aide à remonter dans les classements. Beaucoup de gens découvrent des podcasts avec iTunes, donc ils pourront nous découvrir et ça nous file un coup de main comme ça aussi. Pour ma part, je suis Patrick Béja sur patrickbeja.com et je suis Note Patrick sur Twitter, Patrick Béja sur Google+, et facebook.com/NotePatrick. Comme je suis seul, je fais ma promo. Et je vais donc conclure cette émission de cette manière. J'espère que je n'ai pas raté mon avion. Je ferai le montage dès mon arrivée à la maison et on la mettra en ligne, cette magnifique émission. J'espère qu'elle vous aura plu. On sera de retour dans 2 semaines avec une émission un petit peu plus classique. Merci à tous d'avoir écouté et à la prochaine.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.